Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur un sujet pratique. Comment acheter une propriété en Espagne quand on n'y réside pas? On a des infos assez précises et l'idée, c'est de clarifier tout ça. On va décortiquer ensemble les étapes, hein, depuis le tout début, le numéro d'identification, jusqu'à la signature finale et même les impôts. Allons-y!
Oui, c'est un processus, disons, assez réglementé. Mais franchement, si on connaît les étapes clés, ça devient beaucoup plus simple. On va regarder ensemble les points cruciaux, comme la vérification légale, le fameux contrat d'art.
Parfait. Alors, commençons par le commencement. Le NIE, numéro d'identification d'étranger. Les documents le disent, c'est incontournable.
Ah oui, obligatoire.
Et il y a cette astuce-là de le demander via l'ambassade à Paris. Apparemment, c'est plus rapide.
C'est une option, oui. En fait, le plus important avec le NIE, c'est pas tant la difficulté de l'obtenir, mais le temps que ça prend. Faut vraiment anticiper.
D'accord.
Sans ce numéro, impossible de signer l'acte final chez le notaire. Donc, démarrer ça au plus tôt, c'est vraiment essentiel pour pas tout bloquer.
Logique. Bon, une fois qu'on a mis ça en route et qu'on a une offre acceptée pour un bien, attention, on nous dit bien, avant de signer le contrat d'art, il y a une phase de vérification. C'est ça?
Exactement. Crucial même. Faut pas signer en aveugle.
Et qu'est-ce qu'il faut vérifier concrètement? Quel papier demander au vendeur?
Alors, la liste est assez claire dans les infos qu'on a. D'abord, la note simple du registre foncier. Ça, c'est la base pour savoir qui est vraiment le propriétaire, s'il y a des dettes, des hypothèques. Ensuite, la référence cadastrale, les preuves que les impôts locaux sont payés, l'IBI, les ordures ménagères. Puis, certificat d'habitabilité, certificat énergétique.
C'est déjà pas mal.
Et surtout, faut pas oublier tout ce qui concerne la copropriété si c'est un appartement. Les derniers procès-verbaux d'Assemblée générale, voir s'il y a des charges impayées, des gros travaux prévus. C'est là qu'on peut avoir de mauvaises surprises financières.
Ah oui, la copro, c'est un point sensible. J'imagine bien les travaux votés, mais pas encore appelés. Bon, disons que tout est clair, tout est vérifié. On passe au contrat d'ARS, c'est ça. Ou contrat d'option d'achat.
C'est ça.
Et là, souvent, on verse un acompte. 10%, c'est ce qui est mentionné. Ça engage à quoi, ce contrat?
Alors là, ça devient sérieux. Ce contrat, il fixe un délai pour signer la vente définitive. Si c'est le vendeur qui se rétracte, eh ben, il doit rendre le double de ce que vous avez versé. Donc s'il a reçu 10%, il rend 20%.
Ah oui, quand même.
Ou alors, on peut parfois même le forcer à vendre. Et si c'est l'acheteur, donc vous, qui changeait d'avis, et bien là, vous perdez votre acompte de 10%.
D'accord, c'est un engagement ferme des deux côtés.
Tout à fait. Et un point intéressant qui ressortait des documents, à ce moment précis, pour signer ce contrat d'ARS et verser l'acompte, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir déjà reçu physiquement votre NIE, ni même d'avoir un compte en banque espagnole.
Ah bon? Ça, c'est étonnant.
Oui, le virement des 10% peut venir d'un compte étranger et la signature peut même parfois être électronique. Ça donne un peu de souplesse au début.
C'est bon à savoir ça. Mais alors, le compte bancaire espagnol, il devient nécessaire quand même un moment. Une fois le NIE obtenu, j'imagine.
Oui, absolument. Et une fois que vous avez votre NIE, ouvrir un compte en Espagne, ça devient possible. Et même nécessaire.
Pourquoi nécessaire?
Bah, pour la suite. Surtout pour le paiement final chez le notaire. Ça se fait souvent par chèque de banque espagnole. Et puis pour payer les impôts après l'achat, les charges de copropriété, l'eau, l'électricité. C'est beaucoup plus simple avec un compte local.
Logique. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on doit avoir réglé la question du financement, j'imagine. Prêt ou fonds propres?
Exactement. Si on a besoin d'un prêt hypothécaire, que ce soit via une banque française qui prête pour l'Espagne, c'est plus rare, mais ça existe, ou une banque espagnole, il faut vraiment s'y prendre très très en avance. Les délais d'études et d'approbation peuvent être longs.
D'accord. Anticiper, c'est le maître mot, on dirait.
C'est un peu ça, oui.
Et on arrive enfin au jour J, la signature de l'acte de vente définitif, l'escriturage chez le notaire espagnol, on paye le solde, on récupère les clés, et après c'est fini, ou il reste des choses à faire?
Presque fini. Après la signature, il y a une étape fiscale importante. Payer l'impôt sur les transmissions de propriété, l'ITP. On a 30 jours pour le faire.
D'accord, l'ITP.
Une fois cet impôt payé et que l'acte est, disons, tamponné par l'administration fiscale, il faut l'enregistrer au registre foncier pour que le changement de propriétaire soit officiel.
Et ça, c'est à nous de le faire?
Oui, sauf si, et c'est un détail pratique noté dans les infos, l'achat est fait avec un prêt d'une banque espagnole. Dans ce cas, très souvent, c'est la banque elle-même qui s'occupe de payer l'ITP et de faire l'inscription au registre. Ça simplifiait pas mal.
Ah oui, c'est un avantage. Donc, pour résumer, si on reprend les grandes étapes, 1. Demander le NIE le plus tôt possible. 2. Vérifier à fond le bien et la copro avant de s'engager avec la compte.
C'est ça.
3. Bien comprendre ce qu'implique le contrat d'ARES et la compte de 10%. 4. Ouvrir un compte en Espagne et régler le financement bien en amont.
Tout à fait.
Et 5. La signature finale chez le notaire, suivie du paiement de l'ITP et de l'enregistrement.
Voilà. Vous avez cartographié le parcours administratif essentiel. La rigueur et l'anticipation sont clés. Et ça montre aussi que se faire aider sur place par un avocat ou un conseiller peut être une bonne idée.
C'est clair.
Et ça ouvre peut-être une question pour plus tard, non ? Au-delà de ces étapes administratives, qu'est-ce qu'il y a comme aspect, disons, plus culturel ou pratique dans le fait d'être propriétaire en Espagne ? Les petites choses du quotidien, les relations de voisinage, ce qui n'est qu'écrit dans aucun guide officiel, quoi.
Excellente question pour conclure. De quoi réfléchir, en effet. Une fois la paperasse terminée, merci beaucoup.